Bonsoir. Clôture la semaine dernière à Kinshasa de la table ronde nationale sur la protection sociale. Ces assises ont porté notamment sur les problèmes inhérents aux insuffisances dans la couverture et la qualité des prestations sociales. Parmi les recommandations, les participants ont proposé en dehors de l'INSS la création d'une haute autorité de prévoyance sociale. Quelle analyse faire de ces recommandations issues de cette table ronde? Nous en parlons avec Professeur Willy Matiashi, vice-premier ministre en charge du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale. Bonsoir, Professeur Willy Matiashi.
Bonsoir.
Guy Koukou, président du syndicat Confédération démocratique du travail CDT en sigle. Bonsoir, Monsieur Guy Koukou.
Bonsoir.
Et Polydor Tanguely, il est analyste des questions sociales et expert en matière du travail. Bonsoir, Monsieur Polydor Tanguely.
Bonsoir, Guy.
Et bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La RDC est désormais dotée d'un document stratégique portant sur la politique nationale de la protection sociale comme la prise en charge des personnes du troisième âge. C'est le résultat d'une table ronde organisée la semaine dernière à Kinshasa. Les souhaits du ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, ainsi que celui des participants, est de voir ces stratégies se traduire en plan d'action. Un reportage de Nadine Foula qui a couvert ces assises.
Les participants, venus de toutes les provinces, ont pendant 5 jours passé au peigne fin le contenu de ces documents. Objectif, rendre opérationnelles et efficaces les lois qui existent déjà. Professeur Willy Matiashi, vice-premier ministre et ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, s'est réjoui de voir la RDC enfin dotée d'une politique nationale sur la prévoyance sociale.
Je me réjouis de savoir que vous avez maîtrisé le processus d'élaboration d'une politique et d'une stratégie de protection sociale collective. Il faut faire en sorte que cette politique et cette stratégie se traduisent en plan d'action à court, moyen et long terme.
Quelques participants à cette table ronde souhaitent que cette politique se matérialise dans la vie de toutes les couches de la population. On écoute respectivement Cyprien Mbouka, évêque de Boma, et Laurent Kaozi, ministre provincial du Katanga en charge de l'éducation et énergie.
Susciter les espoirs de la population capable d'accéder à une santé de qualité.
Nous voulons que tous nous puissions participer par effort de solidarité à apporter une réponse aux besoins de chacun.
Parmi les recommandations, les participants souhaitent voir en dehors de l'INSS la création d'une haute autorité de prévoyance sociale qui sera financée à 100% par des Congolais et qui sera dépolitisée.
Merci Nadine Foulan Simba. Professeur Willy Matiashi, je rappelle que vous êtes vice-premier ministre en charge du travail, de l'emploi et de la province sociale. Table ronde nationale sur la protection sociale, quelle était l'opportunité d'organiser cette table ronde?
Mais voilà, opportunité. Parlant de l'opportunité, nous pouvons facilement dire que le thème à discuter, parce qu'il s'agit d'une table ronde, les thèmes à discuter intéressent particulièrement les participants. Et lorsqu'on parle d'une table ronde, c'est qu'il y a un thème. Et que ce thème-là intéresse particulièrement les participants. Mais ne fait pas l'accord de tous, étant donné que le concept de protection sociale est une nouveauté pour les acteurs du monde du travail et de la population tout entière, les uns et en ayant un entendement différent et ou opposé de celui des autres. Il fallait donc que les parties prenantes impliquées d'une manière ou d'une autre dans les conditions de vie des populations se mettent autour d'une table. Il fallait qu'elle soit ronde pour se mettre d'accord sur les problématiques, les objectifs à atteindre ainsi que les stratégies pour y arriver. Voilà l'opportunité qui a fait que la table ronde soit convoquée en vue de doter la République démocratique du Congo de ces documents importants qu'est la politique nationale de protection sociale.
Professeur Willy Matiashi, quelles sont les principales recommandations issues de ces assises?
Parlant des recommandations, nous pouvons dire qu'il y a eu, entre autres, la recommandation pour la mise en œuvre du socle universel de protection sociale, la création d'une caisse de solidarité nationale pour couvrir les besoins de la protection sociale pour tous, le renforcement de la solidarité et donc de la cohésion nationale. C'était parmi les recommandations qui ont été formulées et ça, ce sont des grandes lignes de recommandations.
Oui, vous dites que la RDC s'est dotée d'une politique nationale sur la prévoyance sociale. Et quels sont les axes, n'est-ce pas, de cette politique?
Mais voilà, d'abord, parce que vous voyez, c'est une émission, lorsqu'on dit que c'est pour la première fois que la République a cela. Mais alors, nous sommes allés aussi vite en besogne. Mais fallait-il que l'on expliquât d'entrée de jeu ce que c'est? Mais une petite définition du concept. La protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance collective permettant aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux, notamment. Il s'agit de situations susceptibles de compromettre la sécurité économique de l'individu ou de sa famille en provoquant une baisse de ses ressources ou une hausse de ses dépenses. Les cas de vieillesse, les cas de maladie, les cas d'invalidité, chômage, maternité, charge de famille, etc. La protection sociale repose sur plusieurs types de mécanismes. Il faut que la population le sache. Des prestations, les cas par exemple des prestations sociales versées directement aux ménages qui peuvent être en espèces les cas des pensions de retraite ou en nature les cas de remboursement de soins de santé. Des prestations de services sociaux qui désignent l'accès à des services fournis à prix réduit ou gratuitement, les cas de crèches, les cas d'hôpitaux, les cas des hommes de vieillards par exemple. Les prestations sociales peuvent répondre à trois logiques. La première, une logique d'assurance sociale dont l'objectif est de prémunir contre un risque de perte des revenus, les cas de chômage, maladie, vieillesse, accident du travail. Les prestations sociales sont financées par des cotisations sur les salariés, sur les salaires plutôt, comme dans une assurance privée, et sont donc réservées à ceux qui cotisent. Ça, c'est la première logique. La deuxième logique est celle d'assistance, qui a pour objectif d'instaurer une solidarité entre les individus pour lutter contre les formes de pauvreté. La prestation assure alors un revenu minimum qui ne couvre pas forcément un risque spécifique. Il est versé sous condition de ressources, mais non des cotisations préalables, les revenus de solidarité active, allocation adulte handicapé par exemple. La troisième logique et la dernière est la logique de protection universelle qui a pour but de couvrir certaines catégories de dépenses pour tous les individus. Les prestations dans ce cas sont donc accordées sans condition de cotisation ni de ressources, mais sont les mêmes pour tout, pour tous. Donc, les cas de prestations familiales. Voilà, en bref, de façon laconique, ce que nous pouvons dire sur la protection sociale avant qu'on en donne des grandes lignes pour que l'opinion comprenne de quoi s'agit-il et pourquoi faire.
Oui, professeur Oli Makiachi, la sécurité sociale est organisée formellement dans ces pays à travers les décrets loi du 29 juin 1961 portant création de l'INSS. Aujourd'hui, on parle d'une politique nationale sur la prévoyance sociale. Cela voudrait dire que depuis 54 ans, la RDC ne s'était pas encore dotée de cette politique.
Mais non, bien sûr. La RDC avait, il y a l'Institut national de protection, l'Institut national de sécurité sociale, comme vous avez dit. Mais ici, j'ai dit que l'Institut national de sécurité sociale gère le régime général de sécurité sociale. Mais à côté du régime général de sécurité sociale, il y a d'autres régimes. Donc étendre notamment la couverture de la protection sociale à tous et non seulement aux travailleurs salariés couverts par la sécurité sociale est une innovation telle que l'INSS gère seulement les cas des travailleurs salariés couverts par la sécurité sociale. Étendre l'octroi des allocations familiales à tous les enfants vivant sur le territoire national, que leurs parents travaillent ou non. Ça, c'est une innovation qui est apportée pour accompagner l'INSS.
Merci.
Parce que l'INSS, justement, qui est un établissement qui régit ces secteurs par les décrets lois du 29 juin, comme vous l'avez dit, organique de la sécurité sociale, gère uniquement le régime général de la sécurité sociale qui concerne principalement les travailleurs. À côté de ces régimes généraux organisés et gérés par l'INSS, il existe des régimes spéciaux.
Merci, professeur.
qui couvre les agents, les fonctionnaires de l'État, les personnels de l'enseignement et autres. Donc, toutes ces catégories actuellement couvertes par les prestations de sécurité sociale représentent un peu moins de 10% de la population nationale congolaise. Mais
merci,
grâce
professeur.
À la Caisse de solidarité nationale, les restes de la population, soit environ 90% de la population générale, devraient être couverts par des prestations de protection sociale, d'où cette innovation à côté de l'INSS.
Merci, professeur. Merci Guy Koukou, vous êtes président du syndicat Confédération démocratique du travail CDT en sigle et vous avez pris part active à cette table ronde. Quelle est la conclusion à laquelle vous êtes parvenu en ce qui concerne les systèmes de la sécurité sociale en RDC?
Merci beaucoup monsieur le journaliste pour la question. En gros, nous sommes tombés tous d'accord que la protection sociale à l'heure actuelle est devenu une nécessité pour toutes les couches de la population. Et cela étant, comme son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre vient de le dire, le pays était en retard par rapport à cette couverture-là. Ça signifie qu'actuellement, il n'y a que les travailleurs qui sont couverts, mais encore que même ces travailleurs-là, vous le savez, ne sont pas satisfaits de du régime actuel tel que ça fonctionne, puisque 90% des ressources sont allouées au fonctionnement administratif plutôt qu'à l'allocation des pensions de retraite telles que c'était prévu au départ. Donc ça fait déjà un problème, ça faisait déjà un problème, mais surtout qu'aujourd'hui, avec l'étendue et la justice sociale telle que nous le prenons, nous les acteurs sociaux, il va falloir qu'on puisse l'étendre à d'autres acteurs qui ne sont pas des travailleurs, il y a des indépendants. Et comme vous savez, notre pays, nous fonctionnons actuellement avec plus de 80% de c'est l'informel. L'économie est disons, informalisée, permettez-moi les termes. Ça suffit, ceux qui travaillent dans des contrats officiels de travail sont très peu, sont à peu près 10%, moins de 10% ou autour de 15% s'il y en a plus.
Et ceux qui sont dans l'informel sont nombreux.
Sont plus nombreux.
Or, ceux-là ne peuvent pas cotiser.
Et ne peuvent pas cotiser, ne sont pas couverts non plus, même s'ils avaient envie de faire cela. Et en plus, les enfants qui naissent ne sont pas protégés par l'État congolais, alors que ce sont, on dit comme toujours, la jeunesse et l'avenir de demain. L'État ne s'occupe pas d'eux dès leur naissance, ce sont les parents seuls qui se débrouillent, alors que partout ailleurs, on doit allouer des allocations familiales aux parents pour permettre à prendre en charge les enfants qui sont l'avenir de demain, les contribuables de demain pour l'État congolais.
Monsieur Dukoukou, vous avez dit que le pays était en retard par rapport à la couverture sociale. Au cours de ces assises, vous avez pu identifier les facteurs qui peuvent expliquer ces retards?
Oui, les facteurs, c'est que d'abord l'État est le premier responsable. Vous savez que notre État n'anticipe pas des situations, il subit plutôt des situations et la charge sociale est devenue de plus en plus lourde pour les parents, lourde pour la société, de telle sorte que maintenant, il faut mettre à contribution les concernés, et même, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait la possibilité de créer des caisses et demandant aux personnes de cotiser pour ces caisses-là, de manière à assurer les équilibres, mais aussi une solidarité nationale. Ce qui fait qu'actuellement, dans le système actuel, il n'y a que les riches qui se protègent jusqu'à leur vieillesse, et le petit peuple ne peut pas se protéger. Et il n'y a pas une solidarité nationale. Les riches sont égoïstes, ils prennent toute la richesse avec eux, ils bâtissent des hôtels, ils bâtissent des bâtiments pour leur avenir, pour leur retraite, mais les plus pauvres sont exposés, non seulement ils n'ont pas d'emploi, mais ils ne sont pas protégés jusqu'à la mort. Et vous savez, dès que quelqu'un meurt...
Alors que pendant qu'il travaillait, il cotisait.
Tout à fait, vous voyez, et quand il perd malheureusement son contrat du travail pendant la carrière, c'est fini, on oublie même les cotisations qu'il avait donné, qu'il avait versé dans la caisse de l'État, on les met de côté jusqu'à sa mort. Il est oublié, il est abandonné, alors qu'il avait déjà donné, il avait fait certaines mises déjà dans la caisse de retraite et on ne veut plus s'occuper de lui parce qu'il n'a pas eu la chance d'aller jusqu'au bout de sa carrière. Ce sont des injustices sociales qu'il faut corriger.
Peut-on dire que les participants à cette table ronde ont fait les bilans de 54 ans de l'UNCS?
Tout à fait, en quelque sorte, ce n'est pas, on n'est pas allé faire, disons, une autopsie, mais on est entré en quelque sorte à cela. Parce que, mais aussi, nous devons dire que ça ne suffit pas. C'était une table ronde, ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'on mette en pratique cela. Et même quand ça sera mis en pratique, on a tiré quand même la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, même quand il faudra mettre ça en pratique, il faut éviter dès le départ de politiser les nominations des gestionnaires qui sont déjà de très mauvais gestionnaires qui gèrent ça. On prend des gens qui ne sont pas qualifiés, les gens qui ne sont pas concernés, et quand ils entrent, c'est pour dilapider le peu de ressources qu'on va mettre en place en mettant des politiciens, en mettant des personnes qui ne vont pas affecter et gérer dans l'intérêt où on a créé ces structures-là. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut éviter qu'on puisse recruter les gens en nombre, des gens qui vont recruter beaucoup plus des administratifs pour faire tourner la machine et que les prestations deviennent illusoires par la suite. Et ce n'est pas ça l'objectif tel que c'était dit.
Et à l'issue de ces assises, vous avez souhaité la création d'une haute autorité de la prévoyance sociale. Comment vous la concevez?
Oui, c'est parce qu'il doit y avoir maintenant différentes caisses, comme son Excellence l'a dit tout à l'heure. L'INSS, c'est une des caisses de la prévoyance sociale. Mais il y a d'autres matières qui ne sont pas couvertes par l'INSS. Maintenant, toutes ces différentes caisses, il y a aussi même d'autres couches, comme par exemple les fonctionnaires de l'État. Ils n'ont pas une caisse. Et l'État, qui est leur employeur, ne cotise même pas. Mais même dans la caisse privée, vous savez que l'INSS, actuellement, il n'y a que les travailleurs et les employeurs qui cotisent. Mais l'État, c'est l'État qui nomme les mandataires là-bas. Or, lui ne met rien pour les gens qui sont là-bas, mais il nomme des gens peut-être qui n'ont pas l'intérêt dans la chose, alors qu'on devait nommer soit les travailleurs, soit les employeurs qui cotisent et attendent donner satisfaction à leurs membres qui ont cotisé. Donc c'est pour cette raison-là, on a dit, cette autorité-là aura pour but d'éveiller aux équilibres et à la solidarité nationale, de manière à ce que ceux qui ont beaucoup plus de ressources, ils cotisent un peu plus, mais quand ils cotisent, on pense aussi à ceux qui cotisent moins pour qu'on puisse aller là-bas, qu'on puisse leur payer des allocations qui sont quand même significatives, mais aussi on a pensé qu'il faut créer en dehors des cotisations des concernés, il faut voir des taxes parmi les taxes que l'État perçoit, qui sont mal gérées, et essayer un peu d'affecter à ces caisses sociales-là pour raison de solidarité nationale.
Merci Polydor Tanguely, analyste des questions sociales et expert en matière de travail. Quelle analyse vous faites de l'organisation de cette table ronde?
L'analyse que je fais de l'organisation de cette table ronde, c'est une analyse typiquement positive, dans ce sens que je constate que dans le secteur du travail, il y a une certaine volonté de voir les choses aller de l'avant et de faire en sorte que plus rien ne soit comme par le passé. L'organisation d'une table ronde dans le sens d'amener les acteurs d'un secteur à réfléchir sur les faiblesses et les points forts d'un secteur est une chose à encourager. Cependant, je me dis, fallait-il que cette table ronde qui a regroupé des experts des hautes factures à réfléchir sur le secteur de la protection sociale puisse aboutir à des recommandations telles que celles-ci? À mon humble avis, je pense que on est vite allé en besogne, en ce sens que il y a beaucoup plus d'éléments qui devraient être pris en compte pour essayer de régulariser ces secteurs de la protection sociale. Voilà. D'abord, il y a la réalité du monde du secteur de la protection sociale a souffert plutôt d'un problème de fonctionnement. D'un problème de fonctionnement et d'application des textes qui existent. Comme tout le monde l'a constaté ici, les textes qui régissent la prévoyance sociale souffrent d'une certaine obsolescence. Et ce n'est pas ici l'occasion de rappeler que la liste de maladies professionnelles souffre d'une adaptation. Et plusieurs autres textes annexes au Code du travail, qui est sorti depuis il y a plus de 10 ans, mais les annexes n'ont pas suivi. Donc, il se fait que le décor, le cadre juridique pose un sérieux problème. Et lorsque, dans une table ronde, on réfléchit sans un cadre juridique adapté, il se pose un problème, puisque la base de réflexion est déjà fausse. Voilà pourquoi, tout en saluant cet effort de vouloir les choses changer, je voudrais ici m'attaquer à la recommandation de la création d'une haute autorité de prévoyance sociale. Le secteur de la télécommunication aujourd'hui, après réflexion, a été doté de haute autorité de régulation, ainsi de suite. Mais les résultats sont là. On a vu cette structure dépossédée, l'entreprise étatique existante, de ses attributions, et jusqu'à la rendre une coquille vide au jour d'aujourd'hui. Raison pour laquelle, moi...
Donc, il ne suffit pas seulement de créer...
Il ne suffit pas. Le Congo n'a pas besoin de plusieurs structures. Le Congo a besoin des textes qui rendent ces institutions fortes et doté d'une fiable opérationnalité. Voilà pourquoi, par rapport au secteur de la protection sociale...
Est-ce qu'il n'y avait pas opportunité de penser, réformer, n'est-ce pas, le système, à partir du moment où vous avez suivi M. Guy Koukou, même le ministre, l'INSS constitue l'une des caisses, n'est-ce pas? Il s'est fait que dans les travaux de l'INSS, on n'arrivait pas à couvrir, n'est-ce pas, tous les travailleurs ne bénéficiaient pas du travail de l'INSS. C'est pourquoi on a estimé qu'il était opportun de mettre en place d'autres caisses.
Exactement. Je n'en disconviens pas. Mais cependant, je pense que la création d'une haute autorité devait être la dernière des choses. Je pense ici, heureusement que j'ai en face de moi un co-débatteur qui est un décideur du gouvernement, on aurait dû mettre, à l'image de la réforme de l'administration publique, une structure de la réforme de ce secteur qui a une structure qui est pilotée par les politiques comme ça s'est fait partout ailleurs. De manière à ce que cette structure de la réforme assoit les bases, accompagne la réforme, en touchant à toutes les sensibilités, en impliquant toutes les institutions qui sont concernées par cette réforme, de manière à ce que on ne marche pas à deux vitesses.
Et donc, quand vous parlez d'asseoir les bases, c'est réfléchir sur le cadre juridique.
Le cadre juridique et la complémentarité des structures. Comment les structures vont opérer. Mais si aujourd'hui on crée d'abord la haute autorité de la prévoyance sociale, c'est d'abord une structure budgétivore qui va, comme l'a si bien dit Monsieur Guy, qui va dépouiller les autres structures existantes de leurs attributions. Et on reviendra à tout ce qu'on reproche à des structures qui sont créées. Donc, qu'il y ait une structure qui réforme, avec l'implication des partenaires techniques et financiers qui réfléchissent sérieusement, qu'il y a la BIT qui nous accompagne dans ce secteur, qui réfléchissent sur la réforme et surtout la complémentarité entre le secteur du régime général et le secteur du régime spécifique. Mais cependant, telles que les recommandations ont été faites, on a l'impression que nous avons un cadre qui est harmonieux, hein, alors qu'il y a beaucoup de textes qui souffrent d'obsolescence. Une des recommandations parle de rendre efficace et opérationnel les textes qui existent. Mais ces textes existent depuis quand, Guy?
ils existent depuis plus de 50 ans. Il y a une nécessité d'une mise à jour, et de faire un audit institutionnel pour la complémentarité des différentes structures.
Merci.
Faut-il encore qu'à aux prochaines recommandations, qu'on fixe le rôle, les limites du ministère par rapport à la haute autorité de régulation. Donc, il y a un effort de réflexion en amont avant de mettre en place la structure dont il est question.
Oui, professeur Willy Makashi, vous allez réagir aux préoccupations soulevées par Tangeli Polidor et M. Guy Koukou. Mais avant ça, nous avons une question qui vous est adressée. Elle vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mboulika, ça m'a depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, l'UNICEF ne fait plus preuve d'une certaine crédibilité dans l'assistance sociale. Comment on pourra lui laisser ce monopole? Certaines entreprises privées où on trouve cette rubrique hyper et autres, dans les billets de paye, qui n'arrivent jamais à leur destination, à qui la faute? Je pense qu'il serait mieux de créer cette haute autorité de prévoyance sociale qui peut coexister avec l'UNICEF et les contribuables pourra choisir librement entre les deux. Et le système de gestion doit être différent pour ne pas tomber dans la monotonie. Que nous voyons, on supprime ou privatise une entreprise publique ou privée et on retombe dans les mêmes erreurs de manque d'une bonne politique de gestion.
Professeur Willy Makashi.
Oui, voilà. Il a en partie raison, mais pas totalement. L'INSS, justement, il l'a dit, à un moment donné, l'INSS a sombré. Mais aujourd'hui, avec les gestionnaires qui sont là-bas, ce n'est pas par le fait qu'ils sont nommés par les gouvernements, par l'État. Non. Aujourd'hui, l'INSS reprend du poil de la bête. L'analyste à côté a parlé de l'obsolescence des textes. Les textes datent de 1961. Raison pour laquelle l'INSS n'est pas aboli, n'est pas dissous. Mais l'INSS vient à être renforcé parce que nous l'avons dit, l'INSS a une mission. Jusqu'à ce jour, l'INSS gère les régimes généraux. Et notamment les travailleurs et puis les employés qui cotisent là-bas. Mais maintenant, nous passons à d'autres régimes spéciaux que nous avons eu à énumérer. Mais il a bien raison, mais c'est ça justement la raison d'être de cette table ronde, disons de la démarche. La table ronde, elle est venue discuter d'un document qui est mis en place. Au Katanga, partout, il y a eu des missionnaires qui ont été déployés pour parler avec la population, avec les décideurs à tous les niveaux, toutes les couches de la population, pour y passer. Donc le document n'est pas encore un document final. Il va devoir être passé au peigne fin. L'aspect juridique dont l'analyste parle là est tout à fait fondamental. C'est celui-là plutôt l'aspect juridique qui va régler beaucoup de questions. Parlant des textes, mais vous vous en souviendrez que le président de la République, son Excellence Joseph Kabila, mais en 2005, il prit un décret créant le Programme National d'Appui à la Protection Sociale, le PNPS, qui est d'ailleurs les services techniques du ministère ayant l'emploi, les travaux et la Protection Sociale en charge, qui gère ces questions. Et par là encore des textes juridiques. Mais il y a peu, le Parlement a envoyé au président de la République la loi, disons, les codes de sécurité sociale, et le président de la République, étant donné qu'il institua ce programme depuis 2005, il a souci des Congolais pour que le niveau de vie soit élevé. Il a renvoyé cette loi-là, ce code-là, au Conseil économique et social qui est en train de le passer en revue pour revoir qu'est-ce qui est encore bon. Et tout ce que nous faisons vient pour harmoniser cela. Donc sur le plan des tests, les tests sont là, il y a une loi en vue. Dès que le Conseil économique et social termine le travail, tout ce que nous échangeons, tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer tout ce qui est décrit. Et vous savez, lorsque nous passons au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, rappelez-vous qu'à cet effet, le 11 octobre 2011, Ban Ki-moon a dit exactement ceci. En cette période de tourmente et d'incertitudes économiques à l'échelle mondiale, l'investissement dans la protection sociale est nécessaire, possible et efficace pour restaurer un monde plus juste. Vous avez, madame la présidente Dilma Rousseff, présidente du Brésil, qui a dit que l'expérience récente du Brésil montre qu'il est à la fois possible et souhaitable pour les pays en développement de mettre en place des systèmes de protection sociale pour tous qui servent également d'instruments efficaces pour éliminer la pauvreté.
Professeur.
Je termine avec Nicolas Sarkozy, excusez-moi, président honoraire de la République française, qui lui a dit le 23 mai 2011 que les économies se portent mieux lorsqu'il existe des régimes de protection sociale efficaces parce qu'ils conduisent à améliorer la productivité des salariés et à favoriser une croissance équilibrée et durable. Et donc, nous sommes en train de mettre à jour tous ces instruments, même juridiques, pour résoudre tous les problèmes dont préoccupations sont soulevées.
Oui, professeur, que répondez-vous à M. Guy Koukou qui a estimé qu'il faut mettre en pratique les recommandations issues, n'est-ce pas, de cette table ronde et éviter de politiser les structures qui sont chargées ou qui seront chargées de gérer la prévoyance sociale en RDC?
Il a bien raison. Il a bien raison. C'est ça le souci du gouvernement. Le gouvernement n'a pas politisé. Notre analyste à côté a dit que de par le monde entier, mais c'est l'État qui est le régulateur. Il n'y a pas un privé qui va instaurer ce système. Maintenant, l'analyste parlait du cadre juridique, d'instruments juridiques. Mais c'est l'État qui met ça en place.
Merci,
l'État
professeur.
Est régulateur, il contrôle. L'INSS, par exemple, les porte-parole de l'intersyndicale, M. Guy Koukou, qui est à vos côtés, il reconnaît que c'est le conseil d'administration qui a la conception, qui a les pouvoirs les plus élargis, la conception pour toute orientation de la gestion de l'INSS.
Merci, professeur. Monsieur Guy Koukou, il y a une question qui vient de Bukavu pour vous.
Robert Mohamed Bukavu, au sud de Kivu. Les recommandations issues de la table ronde nationale sur la protection sociale ne sont pas en soi mauvaises. Cependant, plutôt que de créer une haute autorité de prévention sociale en RDC, je pense qu'il serait mieux de renforcer les capacités de l'INSS en lui dotant des moyens conséquents, des moyens capables de permettre de bien jouer son rôle à la satisfaction de la société congolaise. Autant dire qu'une institution supplémentaire de prévention ou de protection sociale ne serait que superflue et peut-être inutilement équivore.
Oui, M. Guy Koukou, pourquoi ne pas penser, renforcer l'INSS au lieu d'envisager la création d'une autre structure?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Non, souvent, nous, les Congolais, nous demandons une chose, ils sont contraires à la foi. Il est bien dit ici qu'il faut séparer des régimes. Plus il y a, et il faut éviter les monopoles, et l'INSS était dans une situation de monopole. Et ce partage-là joue des rôles. Il y a d'abord les équilibres. Nous voulons que les travailleurs aient un régime, que les autres couches, les fonctionnaires aient leur régime AE et leur structure de gestion, et que les indépendants et autres, parce que même les contributions, la façon de fonctionner, même la façon de récolter les financements, c'est différent. Les travailleurs, ce sont les employeurs qui retiennent d'office sur les salaires des travailleurs et les revenus de l'employeur pour verser. Tandis que
La retenue à la
source. Tandis que pour les indépendants, ça ne sera pas possible de fonctionner de cette façon. Et du coup, il y aura d'autres mécanismes qu'il faut mettre en place. Et là, même la gestion, on doit étudier comment on doit mettre les structures pour gérer. Et il ne faut pas pénaliser, par exemple, les travailleurs qui sont sous des menaces, des accidents, des travail et consorts, des maladies professionnelles, dans un régime commun avec des gens qui ont d'autres risques à eux. Donc, c'est pour séparer tout cela et pour répondre à la deuxième maman.
C'est pas une façon de proposer une libéralisation du secteur?
Pas nécessairement. Quand on sépare les choses, c'est pour éviter les lourdeurs. On a dit ici, vous savez, l'INSS s'occupe de quoi? Il s'occupe des allocations de retraite, des pensions, des accidents, de tout ça. C'est trop lourd et tout à la fois, c'est difficile à faire et c'est les mêmes gestionnaires. Et parfois, il y a de la confusion au chef des gestionnaires de prendre ce qui est affecté à ceci, on envoie à cela. C'est pour éviter ça qu'on a dit qu'il faut séparer et tout le monde, nous qui sommes du monde du travail, nous savons qu'il faut absolument séparer l'État, par exemple, les fonctionnaires de l'État. L'État ne cotise pas. Si on met les fonctionnaires avec les autres, et alors qu'eux, on ne retient pas la source, l'État ne verse pas pour eux, on met dans une même caisse. Que va-t-on donner aux retraités de la fonction publique dans une caisse où eux, ils n'ont pas cotisé? Leur employeur n'a pas cotisé. Que va-t-on donner à cela? Donc, c'est un peu toutes ces choses-là qu'on a évitées et on a séparées. Mais les camarades ont parlé des autorités. On dit que mais pourquoi on a créé? Non, ce sont des recommandations. On n'a pas dit qu'on met ces structures-là immédiatement. Merci. Mais on a envisagé que lorsqu'il y aura séparation des caisses, qu'on ait une espèce structure qui essaie un peu de régulariser pour voir éviter des abus dans les différentes caisses-là. Donc c'est nécessaire qu'on puisse arriver à ça. Et ce qu'on va dire, on a dit à l'État, c'est tout simplement justement pour ne pas mettre des prétors dans des structures pour éviter qu'ils soient budgétivores, comme on l'a dit.
Merci, Polydore Tangeli. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Goma, au Nord Kivu.
Ici, Tchomba, depuis Goma, dans la province du Nord Kivu. La solution n'est pas dans la création d'une nouvelle entreprise de prévoyance sociale. On risque de soigner les conséquences sans connaître la cause. L'INSS n'a pas les moyens de sa politique. Et en plus, il y a une pléthorie dans l'INSS. Avec comme conséquence, l'argent qui devrait servir à la prestation sociale est utilisé pour l'accueil, le fonctionnement et autres. Le gouvernement devrait plutôt donner à l'INSS les moyens et une nouvelle feuille de route. Créer une autre entreprise, on risque de tourner en rond car les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Président Tangeli.
J'adhère totalement aux propos de l'auditeur qui pense que on aurait dû redynamiser l'INSS, c'est-à-dire lui donner les moyens juridiques, les moyens, les subsides qui viennent de l'État pour l'appuyer. Comme ça, on peut renverser l'exécution du budget qui exploite 80% pour le fonctionnement de l'institution et 20% au profit des bénéficiaires. Je suis vraiment satisfait du fait que le ministre me rejoint, en ce sens que il reconnaît que le décor n'est pas encore planté pour la mise en place des structures. Mais je crains qu'à l'image d'autres structures qui ont été créées, qu'on profite de cette recommandation pour voir une structure être mise en place avant tout autre préalable. On a évoqué le programme national qui concerne qui traite des questions de la prévoyance sociale, de la protection sociale. Cette structure, que je connais très bien, souffre d'une faible fonctionnalité. On peut aller au budget, voir quel budget on a alloué à Guimaté, à cette structure. Vous verrez que la structure elle-même a été étouffée dans l'œuf. Voilà pourquoi, depuis sa création, si nous essayons de faire le bilan de sa production, le bilan est typiquement mitigé. J'en invite ici le ministre à partager l'expérience avec le ministre de la fonction publique qui, à un moment donné de la réforme, a mis les choses au clair, il a revu le processus de la réforme en faisant un renforcement institutionnel. Et c'est de cela que souffre le secteur de la protection sociale. Nous sommes d'accord qu'il faut réformer, nous sommes d'accord qu'il faut faire une part des choses entre le régime général et les régimes spécifiques. Mais il faut une réflexion forte qui porte sur la revue des cadres juridiques. Le processus a été déclenché, mais le processus est très lent. Par ailleurs, essayez aussi de réfléchir sur la complémentarité de toutes ces structures qui pourront être régulées par la haute autorité. Donc, si on essayait ici de prioriser les recommandations, cette recommandation serait la dernière, à mon humble avis. Alors, l'invitation ici, c'est de ne pas mordre à cette recommandation et de voir une institution qui va exister dans un décor juridique obsolescent et il y aura une déconfiture qui va s'en suivre. On aura une structure qui aura 500 personnes et avec une lourdeur qui ne va pratiquement pas résoudre la problématique.
Professeur Uli Makashi, les recommandations issues de cette table ronde pourraient-elles améliorer les systèmes de sécurité sociale en RDC si réellement elles sont mises en œuvre?
Pardon?
Est-ce que les recommandations issues de cette table ronde, si elles sont mises en œuvre, elles peuvent aider, n'est-ce pas, à améliorer les systèmes de sécurité sociale en RDC?
Bien sûr, c'est comme notre analyste venait de le dire. Les recommandations proviennent de tout le monde, de partout, de toutes les couches de la population. Ce n'est pas le Parlement qui a décidé de ça, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas telle ou telle institution, ce n'est pas le président de la République, mais ce n'est pas le pouvoir judiciaire, mais c'est tout le monde, toutes les couches sont associées. Et c'est ce que j'ai dit, heureusement que l'opinion comprend, ça n'est pas fini. C'est une démarche, comme notre analyste venait de bien le comprendre et le dire. Nous sommes la démarche, mais il fallait que l'on commence. On a commencé, on est en train d'évoluer. Toutes les observations qui sont faites, pour la plupart, elles sont fondées. Ce sont là les contributions dont nous avons besoin. C'est pourquoi il y a eu la table. La table est ronde. Ce sont des assises qui devraient commencer et se terminer dans les délais, mais ça demeure. La démarche est encore en cours. Ce n'est pas fini. Nous allons recevoir toutes les autres observations pour enrichir. Et même la structure qui est à créer, ce n'est pas demain. Parce qu'il y a beaucoup de tests qui consacrent, comme nous avons parlé, les PNPES. Il y a les décrets présidentiels de 2005. Il y a les ordonnances portant attribution des ministères qui confèrent tel. Il y a l'INSS, les décrets du 29 juin 61. Mais tous ces textes-là ne sont pas encore abrogés. Ce n'est pas du jour au lendemain. Le cadre juridique, comme je l'ai dit, il y a le Conseil économique et social qui est en train de s'occuper de ces cadres juridiques, justement,
professeur,
que le président de la République a
conclu. En conclusion, nous sommes à la fin de l'émission.
Pardon?
Votre conclusion, nous sommes presque à la fin de l'émission.
Oui, notre conclusion, c'est que nous sommes ravis de constater que l'opinion est en train de comprendre, mais elle émet des observations pour l'enrichissement. Ceci est une innovation, c'est la première en République démocratique du Congo. Le problème, c'est que tout le monde y souscrive parce que la volonté exprimée du président de la République est manifeste par rapport au cadre juridique, par rapport à tous les instruments qui sont mis en place et le gouvernement est décidé.
Merci.
Le Premier ministre va dans le même sens. Donc la matérialisation est tout à fait à l'ordre du jour.
Merci, professeur Willy Makashi. Monsieur Guy Koukou, votre conclusion. Nous savons que l'INSS dispose d'un des patrimoines les plus importants, n'est-ce pas, immobilier de la RDC. Et on peut, si on rentabilise bien ce patrimoine, l'INSS peut se faire beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect des choses?
Tout à fait, on y a pensé. Et je pense que même son Excellence, le vice-premier ministre, venait de le dire. Maintenant qu'actuellement, l'INSS a même des réserves de la gestion de cet immobilier et même des cotisations. Ça, c'est une bonne chose. Mais l'autre chose, c'est que maintenant, il faudra qu'on puisse assainir la gestion et aller dans le sens de satisfaire les prestations d'abord. Parce que l'objet social de l'INSS, c'est donner satisfaction aux prestations sociales des contribuables qui ont investi de leur argent pour leur vieillesse, pour leur vieux jour.
En conclusion?
Et donc, en conclusion, nous sommes contents de la table ronde déjà, parce que cette réflexion a commencé, comme son Excellence vient de dire, on doit continuer à réfléchir. Rien n'est parfait quand on commence, mais avec les analyses, les observations des uns et des autres, nous allons arriver aux bonnes conclusions et surtout à la matérialisation de toutes ces recommandations pour éviter qu'elles restent lettres mortes dans les tiroirs de son Excellence ou du gouvernement.
Merci, M. Polydor Tanguely, votre conclusion.
Je salue la tenue de cette table ronde qui est une belle initiative et qui montre que les choses bougent dans le secteur, mais j'en appelle ici à un bon appui institutionnel. à ces secteurs qui en souffrent sérieusement, défaut de budget, faible fonctionnalité, absence d'un cadre juridique harmonieux, absence d'un comité de pilotage qui essaye de coordonner et qui assure la complémentarité dans la mise en œuvre du processus. Donc, tel est mon point de vue en conclusion, et j'en appelle les peuples congolais à l'espoir, puisque à l'horizon de 2030-2040, nous pourrons être protégés au plan social.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Nsala qui était à la technique. Merci à Alain Irung, Kelly Kouté, Iberi, Franklin Loutiaka à la réalisation sous la supervision des Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite des programmes sur Radio Capi.